Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous l'avez vu hier, notre très cher président de la République est allé se pavaner à Notre-Dame, comme il aime le faire, n'est-ce pas? Parce que c'est hier et aujourd'hui, ce sont les journées du patrimoine. Ce qui de soi n'est pas une mauvaise initiative, et ça nous permet à nous autres chrétiens de faire une réflexion sur le patrimoine. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine? C'est un mot qui vient du latin, comme beaucoup de mots, d'où l'importance, hein, de l'apprentissage du latin à l'école, parce que ce sont les racines de la plupart de nos mots français, et cela permet, derrière ces racines, de comprendre le sens profond. La première partie du mot patrimoine, il y a pater, le père, comme dans patriarcat, etc. La deuxième partie du mot, ça vient du latin munia ou munus. Munia qui désigne, alors anciennement, pourquoi le monium? Parce que il peut y avoir des modifications de vocalisation, n'est-ce pas, entre le ou latin et puis le o français. Donc en français, ça finit par donner le mot patrimoine. D'ailleurs, le latin archaïque, c'était menia, moenia. Vous voyez que là aussi, il y avait des variations. Le munia, c'est la charge, ce sont les offices, les fonctions. Donc les fonctions en particulier officielles. Le munus, c'est le présent que l'on fait. Donc c'est pas le présent que l'on reçoit, mais c'est celui que l'on fait. Et donc, le patrimoine consiste en ce qui est transmis et reçu familialement de génération en génération. C'est ce que le père transmet à sa famille. Un bien à posséder, une charge à assumer, puisque là aussi, et même dans l'Antiquité, les charges pouvaient se transmettre de génération en génération, des droits aussi particuliers. Un don à recevoir. Donc, le patrimoine, c'est un héritage, une responsabilité. Notez bien qu'il y a un autre mot, puisque les plus féministes d'entre vous pourraient crier au scandale « patrimoine, pourquoi pas matrimoine, n'est-ce pas ?» C'est un mot qui existe déjà, en fait, « matrimoine » en français. C'est le mot « mariage ». Le mot mariage français vient du mot latin matrimonium. Patrimoine, matrimonium, mariage. Et donc, le mariage renvoie à la fonction particulière de celle qui devient mère en s'associant donc pour la vie à un homme. Vous voyez, et va aussi transmettre la vie, transmettre l'éducation. Donc, nous autres chrétiens, nous sommes en dehors de ces histoires wokistes d'opposition entre féminisme, masculinisme et tout ça. Nous sommes pour l'ordre des choses, l'ordre chrétien qui implique une place pour chacun et chacun à sa place selon ce que Dieu a institué. Et c'est pour ça que nous voyons à travers ces deux mots patrimoine, matrimoine ou mariage, nous voyons un peu aussi les fonctions que l'homme et la femme sont amenés particulièrement à accomplir dans la société et quand ils sont associés en particulier dans le mariage. Le rôle de père est différent du rôle de mère et les deux s'associent eh bien pour fonder la famille. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui de parler de cela, mais de parler vraiment du patrimoine. Donc, héritage, ce qui est transmis par le Père. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir être transmis? Donc, au-delà, bien sûr, puisque ces journées du patrimoine nous renvoient à des réalités plutôt matérielles, nous renvoient à des bâtiments en particulier, des choses qui font partie de la société plus globale, de l'État, de la France ici. Mais la base, c'est le patrimoine familial. Donc, qu'est-ce qui va être transmis familialement? On parle de patrimoine génétique, hein, déjà. Donc, familialement, sont transmis des caractéristiques génétiques, bien entendu. Mais c'est pas le plus important. Qu'est-ce qui va être transmis? Un patrimoine de relations, filiation, hein, puisque les parents engendrent des enfants, le patrimoine, il est déjà là, dans le fait que vos enfants sont vos enfants et le resteront jusqu'à la fin de leur jour. Le patrimoine génétique, j'en ai parlé. Bien sûr, quand on parle de patrimoine, en règle générale, on va penser au patrimoine matériel, n'est-ce pas? C'est-à-dire les biens matériels que l'on va transmettre. La maison, les propriétés, tous les autres biens matériels. Il y a aussi la transmission, je vous le disais, de droits particuliers. Alors, c'était le cas à l'époque où il y avait la noblesse, etc. Donc il y a une transmission. Notez d'ailleurs que la transmission de la noblesse se faisait à travers le patrimoine matériel, c'est-à-dire que on transmettait une terre de génération en génération et on administrait cette terre. Aujourd'hui, on est un peu coupé de tout cela par le socialisme qui a envahi notre monde et spécialement notre société française. J'y reviendrai. Enfin, et c'est certainement le plus important, ce qui est transmis, c'est aussi le patrimoine spirituel, culturel, tradition, savoir et surtout, pour ce qui nous intéresse, la foi. La foi et tout ce qui a trait à la foi, la morale, les bonnes habitudes, la vie chrétienne. Voilà donc ce qui peut être transmis par patrimoine, des habitudes, des coutumes, bonnes ou mauvaises, malheureusement, et on ne le voit que trop souvent, hein, au niveau de l'éducation. Les adultes héritent de travers de leurs parents, même s'ils prétendent s'en détacher. En règle générale, les matérialistes engendrent des matérialistes. Ceux qu'on appelle les beaufs engendrent des beaufs, etc. Hélas. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, ce patrimoine que nous recevons, et spécialement dans ce domaine, il est important de s'interroger sur sa validité, n'est-ce pas? Et il sera donc question de cette réception, de cette transmission du patrimoine et de cette relation finalement que nous avons au patrimoine. Donc, j'insiste là-dessus, s'il y a quelque chose de plus important à transmettre à vos enfants, c'est quoi? C'est la foi et tout ce qui est du domaine de la foi. Tout le reste est secondaire, donc il faut hiérarchiser. Le plus important, ce n'est pas de transmettre des biens matériels, un terrain, une maison, des pièces d'or, des bitcoins, tout ce que vous voulez, ou des chandeliers. Le plus important n'est pas de transmettre même une instruction, une éducation extérieure, je parle. Le plus important, c'est de transmettre le patrimoine surnaturel, celui de la foi. C'est pour ça que chaque année, je dois insister notamment sur la question du catéchisme. Catéchisme pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans leur vie. C'est ce que nous avons de plus important à leur transmettre. Les vérités de foi, la morale, les vertus chrétiennes, donc transmises par le catéchisme, mais transmise aussi par la vie chrétienne de tous les jours. notamment par la prière en famille, par les exemples qui sont donnés par les parents, par les efforts surnaturels qui sont montrés. Vous avez le choix et tout ce que vous ferez aujourd'hui, vous le voyez, il ne s'agit pas d'amasser des biens matériels d'abord à transmettre à vos enfants, il s'agit d'amasser des biens surnaturels, des mérites, des vertus, des bons exemples, une bonne mentalité à transmettre à vos enfants. C'est ça le patrimoine sur lequel nous devons nous concentrer. Donc ça nous amène à cette relation que nous avons au patrimoine et à deux erreurs qui sont commises, deux erreurs qui s'opposent par rapport au patrimoine. Dans le patrimoine, dans ce que nous donnons, dans ce que nous recevons, dans ce qui se transmet de génération en génération, on peut distinguer des éléments essentiels et des éléments accidentels. Et la plupart du temps, dans les mauvais comportements, on s'aperçoit que il y a un problème au niveau de cette distinction, à savoir que certains vont accidentaliser ce qui est essentiel, donc le considérer comme secondaire, pas important. Et dans l'autre sens, certains vont essentialiser ce qui n'est que accidentel, mettre tout sur le même plan en le considérant comme de la plus haute importance. On peut appliquer cette distinction essence-accident qui nous est héritée de la philosophie aristotélico-thomiste à peu près à toute chose, et on va s'apercevoir que souvent les mauvais comportements, les mauvaises relations viennent d'erreurs par rapport à cela. On va pouvoir donc donner des exemples. Accidentaliser l'essentiel, c'est réduire ce qui est vital à un détail. Par exemple, dans la société, on va considérer la famille comme un élément accidentel de la société inventé par les humains et donc dont on peut se passer, qu'on peut réformer de n'importe quelle manière. Et ne vous leurrez pas, vous avez peut-être entendu que Monsieur Prévost, dans le livre Entretien, est pour la famille traditionnelle, pour l'instant. C'est surtout ça qui est important, parce que il ne parle pas de vision transcendante des choses. Il ne parle pas du fait que la famille, c'est une réalité naturelle, que l'union d'un homme et d'une femme, par le matrimonium, le mariage, c'est la réalité naturelle qui constitue la société humaine. C'est pas accidentel, c'est pas quelque chose qui peut changer selon les sociétés, selon le temps, selon les époques. Donc, ça fait partie du patrimoine essentiel. Le mariage, la famille. Ce n'est pas une tradition chrétienne. C'est une loi d'ordre naturel. C'est essentiel. Donc, il faut faire attention. Et un véritable pape, évidemment, doit être précis quand il s'agit de ces choses-là. Parce que c'est fondamental pour la société. C'est fondamental au sens étymologique du terme, parce que c'est un fondement de la société. Donc si on ne transmet pas ce respect de la famille, du mariage, dans ce qu'il est naturellement et surnaturellement, il est évident que nous ne pouvons que avoir une société dans le futur qui une société qui s'effondre de plus en plus. Opposé à cette famille, ce n'est pas ce qui est opposé à cette famille et à ce sens du patrimoine. Faisons attention à cela, parce que je pense que vous êtes quand même tous ici convaincus de cette réalité par rapport à la famille, par rapport au mariage. Mais par contre, nous sommes tous influencés par la société actuelle et par rapport à ce qu'il faut transmettre. Et la société actuelle, elle est devenue individualiste. Pourquoi on attaque la famille? Parce que on considère en réalité que chaque individu est indépendant et libre, doit se construire lui-même. C'est le mythe, n'est-ce pas, du self-made man ou woman aujourd'hui. On va pas tout womaniser, n'est-ce pas? Il y en a marre du wokisme. Mais nous voyons, mes bien chers frères, que ça s'insinue. Quand on dit que nos enfants, eh bien, à un moment donné, ils doivent se débrouiller tout seuls, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux, parce, ou quand on dit que on va se construire soi-même ou qu'on s'est construit tout seul, c'est vrai et c'est faux. Et surtout, ce n'est pas dans cette mentalité de réception et de transmission, dans cette mentalité chrétienne de patrimoine à donner et de patrimoine à recevoir. Et pourtant, bah, c'est toute la mentalité notamment qui nous vient des États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Cette réussite personnelle, etc. Et faire croire que c'est le but ultime, le summum de ce que peut faire quelqu'un. Donc on a cette mentalité individualiste et orgueilleuse. Au contraire, dans la famille chrétienne, on doit veiller à transmettre. On doit veiller à transmettre même des biens matériels, effectivement. Mais ce n'est pas le plus important. Donc je le répète, il faut hiérarchiser. Nous devons veiller à transmettre ces valeurs de la foi, ces valeurs des vertus chrétiennes. Et donc nous devons transmettre cette mentalité de savoir recevoir des autres, de savoir demander si on a besoin, de savoir accepter, remercier par rapport à ce qu'on nous donne, à ce qu'on nous transmet. Parce que fondamentalement, ça nous maintient dans un esprit de dépendance, les uns vis-à-vis des autres. Et donc, dans un esprit de société, et non plus dans un esprit d'individualisme. Maintenant, c'est pareil au niveau religieux. Les fidèles ont conscience, je pense, j'espère, qu'ils ont besoin du prêtre pour recevoir les sacrements, la sainte doctrine, etc. Mais malheureusement, là encore, est-ce que cette dépendance est vraiment consciente, ou est-ce qu'on se dit, bah, de toute façon, s'il y a un prêtre en moins, on peut aller chez un autre, etc. Les prêtres sont interchangeables, on circule aussi de chapelle en chapelle sans raison véritablement propre et sérieuse, et surtout fondée sur la foi. On dépend tous des uns des autres. Et nous-mêmes, en tant que prêtres, on dépend de vous, fidèles, au niveau matériel, et on est conscient. Et avec cette conscience, eh bien, on est obligé de gérer aussi, de remplir notre devoir, même au niveau des biens matériels. Et c'est ça qu'il faut transmettre aux enfants, vous voyez. Ne pas, donc, accidentaliser ce qui est essentiel et tout ordonner. On peut donner d'autres exemples. La liturgie, n'est-ce pas? Je vous parlais des quatre temps. Donc, certains, avec ce changement fait en 1960, ce changement de comptage des quatre temps. D'ailleurs, pour le coup, c'est rare que les deux manières de compter ne tombent pas en les mêmes jours, en réalité. Bah, c'est pas traditionnel. Voilà. Donc c'est mal. N'empêche que la date des quatre temps, ça a varié dans l'histoire et c'est quelque chose d'accidentel. Il ne faut pas l'essentialiser. Un pape peut le changer. C'est ce qui a été fait en 1960 et c'est ce qui s'est fait en réalité progressivement au cours des siècles. On peut le démontrer depuis le 4e siècle. Mais bien sûr, dans notre monde traditionnaliste, il y a cette tendance à essentialiser tout ce qui est accidentel et secondaire. Alors que l'essence des quatre temps est conservée. Le jeûne, l'abstinence, la liturgie propre des quatre temps, tout cela est conservé. Mais on trouve moyen à redire parce qu'il faut redire. Parce que tout changement est considéré comme mauvais. C'est la mentalité traditionnaliste mauvaise. Les églises, parlons-en puisque ce sont les journées du patrimoine. Essentialiser l'accidentel dans les églises, c'est quoi ? Ben, c'est garder les murs. C'est cette fameuse association pour la préservation de l'abbaye de Faverney qui précise sans connotation religieuse. Dans ce cas-là, ne parlez pas d'abbaye. Abbaye, c'est connotation religieuse. Parlez des grands bâtiments du XVIIIe siècle posés comme ça au milieu du village de Faverney. Soyez matérialiste jusqu'au bout si vous voulez pas de ce qu'est une abbaye. Après, de facto, l'abbaye de Faverney est-elle une abbaye ? Non, effectivement. Elle ne l'est plus parce que une abbaye, ce sont des petits moignons qui vivent la vie monastique et joyeusement qui vont chanter l'office, travailler à la sueur de leur front, etc., etc. Il n'y en a plus. Donc l'abbaye de Faverney n'est plus une abbaye. Effectivement, ce sont les bâtiments de l'ancienne abbaye. Idem à Luxeuil ou malheureusement dans bien d'autres endroits. Donc aujourd'hui, on a un culte de la pierre. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préserver ces bâtiments. Ça ne veut pas dire que, pour moi, il faut détruire les églises. Mais cependant, je préfère que les églises soient détruites plutôt que désacralisées. Parce que, essentiellement, une église, elle a été faite, elle a été construite par nos pères. C'est le patrimoine. Pour une raison. Pas pour s'extasier devant l'architecture, devant les pierres, devant les vitraux, pas pour se pavaner sur une tour, etc. Ça a été conçu pour le culte de Dieu. Donc, à choisir. Donc essentiellement, le but d'une église, c'est le culte de Dieu. Donc tant qu'à choisir, je préfère, et nous devons préférer en tant que chrétiens, qu'une église soit détruite, plutôt que transformée, transformée en appartement, transformée en boîte de nuit avec boule à facettes et compagnie, transformée en bar, en je ne sais trop quoi, ou même en musée. Parce que dans un musée, il n'y a plus le culte de Dieu. Ce ne sont plus que des pierres. Donc, on ne peut pas avoir ce culte des pierres pour les pierres. On doit renvoyer au but, à la fin, à ce pourquoi ces pierres ont été assemblées de telle manière à tel endroit. Donc attention là aussi à ne pas accidentaliser l'essentiel. Et dans l'autre sens, à accepter dans le monde d'aujourd'hui que nos petites chapelles, ce sont pas des églises. Certains ont les moyens d'acheter ou de faire des églises, etc. D'autres ont moins de moyens. Et ça ne rend pas le lieu moins important. D'autres, malheureusement, même doivent faire avec des lieux temporaires et monter, démonter l'autel dans certaines circonstances. Donc ce qui nous montre que l'essentiel, c'est ce qui se passe évidemment dans ce lieu, c'est-à-dire le Saint-Sacrifice de la messe. Et il y a des chapelles plus ou moins qu'on va considérer comme plus ou moins belles, bien faites, etc. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir la messe. Et même si certains ont la messe dans un garage, dans une salle, etc. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette sainte messe. C'est encore mieux d'avoir le bâtiment, bien entendu. Il y a aussi évidemment cette tentation d'essentialiser l'accidentel, d'ériger en absolu ce qui n'est qu'accessoire. Hein, par exemple, dans la société, d'ériger en absolu les biens matériels. Les biens matériels étant le patrimoine absolu, alors qu'en fait, ce qu'il faut transmettre, ce qu'il est essentiel de transmettre, ce ne sont pas les biens matériels, ce sont les biens spirituels. C'est l'expression vraiment de notre société actuelle. Hein. Celui qui n'a pas de Rolex à 50 ans a raté sa vie. Donc, patrimoine matériel, n'est-ce pas ? Un accident de luxe devient un critère de réussite. Dans la liturgie, on considère toutes les rubriques secondaires ou des détails stylistiques en oubliant l'essence de la prière de l'Église. Et donc, là aussi, on refuse toute réforme liturgique. Alors que, par exemple, le pape Saint-Pie X, lui-même, a dit qu'il fallait décrasser la liturgie de ce que le temps avait pu ajouter. Il emploie l'expression, hein, il parle de crasse, littéralement. Ainsi, par rapport à l'office divin, par rapport au bréviaire romain, grâce à Dieu, notre bréviaire monastique n'a pas été touché depuis l'organisation de Saint-Benoît, au niveau de l'organisation des psaumes. Mais Saint-Benoît, il était conscient que cette organisation des psaumes, finalement, n'est qu'un accident, n'est pas l'essentiel de la prière de l'Église. C'est pourquoi Saint-Pie X garde toute la structure et les essentiels du bréviaire romain, toutes les heures du jour et de la nuit, les matines et puis les heures du jour. Il garde l'essentiel de la structure aussi générale de la liturgie en voulant recentrer autour des dimanches la liturgie, parce que c'est l'origine liturgique et c'est l'essence même de la liturgie, cette célébration de la semaine chrétienne. Mais par contre, il va réorganiser, changer l'ordre de façon absolue des psaumes qui vont être récités à telle ou telle heure. Et c'est une véritable révolution liturgique. Ceux qui s'opposent aux réformes du pape Pie XII, eh bien, quand on leur parle des réformes de Saint-Pie X, en général, ne font pas les fiers, parce que ils ne veulent pas admettre que les changements effectués par Saint-Pie X ont été radicaux, et ils étaient pourtant accidentels. Tandis que les changements de Vatican II, je prends juste l'exemple là du bréviaire qui devient la liturgia horarum, la liturgie des heures. Bon, là aussi, c'est un détail accidentel, comme on appelle l'office divin, liturgie des heures, bréviaire, etc. Bon, à la limite, c'est pas le problème. Par contre, le problème, c'est de rendre la majeure partie des heures du bréviaire complètement mouvante, sans qu'il y ait plus véritablement d'obligation, sans qu'il y ait une ordination bien précise. Ah ben, si on veut, on peut choisir tel ou tel psaume, etc. Donc c'est tellement vague qu'on perd l'essence même de l'office divin et qu'on perd cette notion même de prière de l'Église, que tous les prêtres, pour la liturgie romaine, ben, ils vont réciter le même bréviaire chaque jour. Tandis que là, dans cette nouvelle liturgie, bah, chacun fait ce qu'il veut. L'office divin, la liturgie des heures, comme il le rappelle, est finalement renvoyé à une prière individuelle quasiment. On perd le patrimoine liturgique parce qu'on perd l'essence même de l'office divin. Les églises, vouloir sauver à tout prix des murs sans âme, des fragments sans foi. Alors, je vous rappelle que la basilique Saint-Pierre, merveilleuse, que vous voyez aujourd'hui, avant, il y avait la basilique qui datait de l'époque de Constantin, 4e siècle. Donc, la basilique Saint-Pierre actuelle, c'est pas traditionnel, c'est du modernisme avant l'heure. On a détruit pour reconstruire. On aime ou on n'aime pas le style de cette époque. Moi, j'aime. J'aurais aimé la basilique constantinienne aussi, hein, puisque c'est un style d'époque magnifique. Mais est-ce que c'est l'essentiel ? Non, l'essentiel a été préservé. On a une église, on a un lieu de culte, et surtout, on a un lieu de culte établi sur le tombeau de Saint-Pierre. Exactement, celui qui dit la messe sur l'autel majeur de Saint-Pierre, dit la messe sur le tombeau de Saint-Pierre. Donc on a transmis l'essentiel, le culte de Saint-Pierre, qui existe depuis, je vous l'avais expliqué, depuis le 1er siècle, depuis sa mort. Et même si on a détruit l'église, qui s'effondrait en réalité, qui était devenue dangereuse, on l'a reconstruite plus grande, magnifique, avec des proportions absolument extraordinaires, mais on a gardé le tombeau de Saint-Pierre. On a gardé également cet obélisque qui était au milieu du cirque, qui a vu le martyre de Saint-Pierre, donc on l'a déplacé au milieu de la place Saint-Pierre, justement. Et c'était une opération d'ailleurs très délicate, très particulière, pour ne pas la casser. Est-ce qu'on s'est dit par traditionalisme, non, il faut absolument la laisser là? Bon, certainement qu'il y avait des voix qui disaient cela. Mais non, le pape a dit, ben non, on va la mettre au milieu, prendre toutes les mesures pour faire cela, pour montrer devant cette église, eh bien, là où c'est le lieu du martyr de Saint-Pierre, et cette colonne a été témoin du martyr de Saint-Pierre. On conserve l'essentiel. On conserve bien sûr le fait que c'est une église qui est dédiée au culte de Dieu, avec ses nombreux autels, ses nombreuses reliques, etc. Et l'accidentel, les pierres, on les a enlevées, puis on en a mis de nouvelles. On a reconstruit. Donc voilà, mes bien chers frères, l'esprit que nous devons avoir vis-à-vis du patrimoine, même ce patrimoine de pierre qui nous a été transmis par l'Église. Si à un moment donné il faut détruire, et c'est toujours un crève-cœur de le faire pour telle ou telle raison, s'il faut détruire parce que c'est dangereux, parce que c'est vétuste, etc., eh ben détruisons, reconstruisons. Je vous fais remarquer que les cathédrales gothiques, qu'on estime comme les summums de l'art chrétien, c'est-à-dire certains. Certains trouveront plus beau le baroque, d'autres comme moi préféreront l'art roman ou des antiques églises chrétiennes. Mais en dessous de ces cathédrales, avant ces cathédrales, il y avait des églises. On les a détruites pour les reconstruire de cette manière. Donc il faut réfléchir à cette réalité. Donc la voie chrétienne par rapport au patrimoine, c'est la voie, une fois de plus, de l'ordre, de la hiérarchisation, de savoir où est l'essentiel, où est l'accidentel, où est l'accident qu'on appelle propre, et où est l'accident vraiment purement accidentel. Par exemple, dans une église, l'accident propre, bah, c'est le plan, la fonctionnalité de l'église. Il faut qu'une église soit faite pour le culte de Dieu, orientée au culte de Dieu, vers l'autel. C'est pour ça que un coup de bulldozer dans Notre-Dame de Ronchamp ou autre, n'a aucun scrupule, parce que ça n'a ni queue ni tête, et ça, ce ne sont pas des églises, ce ne sont pas des chapelles. Ce sont des monuments qui n'ont rien à voir en réalité avec la religion. Parce que là derrière, on supprime les accidents propres d'une église, un certain plan et pour une certaine fonctionnalité, hein, et c'est-à-dire le culte de Dieu. Donc nous sommes partisans de l'ordre, de garder l'essentiel, de respecter ces accidents propres, de relativiser les accidents contingents, et donc de savoir s'émerveiller autant devant les arcs en plein cintre d'une église romane que devant les verrières en ogive d'une église gothique, que devant les colonnes torsadées merveilleuse du baldaquin de Saint-Pierre baroque. On peut s'émerveiller devant tout cela parce que à chacune de ces époques, il y a une mentalité chrétienne qui est véhiculée. Et ça, c'est le patrimoine dont nous avons hérité. C'est le patrimoine auquel nous devons être attachés. C'est ce qu'il y a derrière, finalement, ces pierres. De même, au niveau de la famille, ce à quoi il faudra être attaché, ce sont pas des biens matériels, ce sont pas les bougies d'anniversaire de l'arrière-grand-mère ou de votre petite fille pour ses 1 an ou je ne sais trop quoi. C'est pas ça qu'il faut transmettre. Ce qu'il faut transmettre, bon, vous pouvez le transmettre, hein, ça me gêne pas, c'est pas mauvais. Mais ce qu'il faut transmettre en premier lieu, c'est la foi et la pratique chrétienne, catholique. Donc, en ces journées du patrimoine, eh bien, je vous invite à réfléchir sur cette notion de patrimoine sous tous ses aspects, et puis bien évidemment sous cet aspect primordial de ce que vous avez reçu de bien ou de mal d'ailleurs de vos parents, de vos familles, et qu'il faut éventuellement mettre de côté. Il y a un patrimoine, s'il est mauvais, il faut le détruire, il faut l'enterrer, il faut savoir faire cela, être conscient de cela. Et le patrimoine que vous voulez construire et transmettre à vos enfants, et à travers cela transmettre aux générations futures. Et ce patrimoine, ça doit être le patrimoine essentiel, c'est-à-dire celui de la foi catholique vivante, et vivante par la pratique des vertus chrétiennes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.